minutes, chers auditeurs, bienvenue à l'écoute de l'émission hebdomadaire de VO Afrique, le monde au féminin. Nathalie Marche pour vous servir et avec moi dans le studio, Pascal Serangani-Vueto, je ne sais pas si je l'ai prononcé correctement, réalisatrice centrafricaine de documentaires à caractère social et fondatrice d'Illustro Productions. Un grand merci d'être avec nous.
Merci Nathalie de me recevoir.
Alors un petit rappel sur votre biographie, un petit résumé un peu de votre parcours. Vous êtes de la sélection 2017 des jeunes personnes sélectionnées pour le fameux programme YALI. Hein. C'est pourquoi vous êtes à Washington. Vous êtes animatrice pour la télévision. Vous avez été animatrice pour la télévision privée à Cotonou, au Bénin. Vous avez obtenu le diplôme d'assistant réalisateur au Conservatoire libre du cinéma français de Paris. En 2006, hein, dites-moi si je me trompe sur les dates, vous travaillez notamment avec des ONG pour lesquelles vous réalisez des films institutionnels. Vous avez décroché le Leadership Award en 2007 à New York, c'est ça ? Et en 2009, vous avez réalisé 20 reportages de 15 minutes franco-tempo qui ont été diffusés à l'Alliance française de Bangui et à la télévision centrafricaine. Et en 2016, vous avez créé Illustro Productions à Bangui, c'est ça ?
C'est bien ça.
En Centrafrique, en partenariat avec l'Alliance française de Bangui.
Bah
voilà,
on a dit, je pense que je peux m'en aller.
Voilà, donc on commence bien, on vous présente de cette manière. J'aimerais bien avoir votre sentiment sur le programme YALI. Donc voilà, votre réaction par rapport à cette fameuse sélection hein, des leaders, des jeunes leaders africains.
Alors ça a été une belle surprise pour moi parce que je dois t'avouer que je ne pensais pas qu'il était possible d'être retenu par rapport à mon domaine d'activité. Donc moi c'était plus les reportages, la réalisation de documentaires et j'ai tenté parce que des amis m'ont dit écoute il faut que tu tentes et franchement être ici, on a eu d'abord 6 semaines de formation. Moi j'ai choisi le domaine business and entrepreneurship. Donc j'ai suivi mes formations à l'université de Austin au Texas hein, pendant 6 semaines. Mm-hmm. Et ensuite on a eu une semaine où il a fallu assister à des conférences et faire énormément de networking, donc se connecter avec environ 1000 participants venus de toute l'Afrique pratiquement, échanger, parler de nos activités, aller à des conférences, écouter des panélistes qui ont pris part à ce sommet et maintenant un stage au sein de la Voix de l'Amérique. Mmh. Au département télé. Franchement, je n'ai pas de mots, c'est vraiment une belle opportunité.
Une belle opportunité.
Ici, ouais. Je suis très heureuse du parcours.
Ouais. Mmh. Illustro Production, ça a commencé comment ?
Alors, Illustro Production également, c'était pas prévu, mais je me suis rendu compte qu'il était essentiel de créer une structure parce que je travaillais sur un documentaire qui portait sur un sujet. Que doit faire la diaspora ? Donc, est-ce qu'il faut que les Centrafricains qui résident à l'étranger doivent rentrer dans leur pays hein, pour construire leur pays ? C'est parti de là parce que je me suis sentie également concernée pour avoir vécu plus de 12 ans en France. À un moment donné, je m'interrogeais, est-ce qu'il faut que je rentre ou pas ? Et donc, je me suis dit, tiens, pourquoi pas en faire un documentaire ? Donc, Illustro est né de cette idée où je me suis rendu compte qu'en allant sur le terrain, la population avait besoin de s'exprimer, de mm-hmm. témoigner, de raconter un peu ce qu'elle traverse en commun. Comme vous le savez, la RCA est traversée par des crises et des conflits depuis déjà pas mal d'années. Tout est à refaire et je trouve qu'on ne parle pas assez de la résilience de la population. Les médias se focalisent surtout sur les conflits, les violences, les armes, etc. Mais la population qui survit, malgré tout ça, je trouve qu'elle est un peu
effacée. Qui supporte, ouais.
Voilà.
Qui est endurante.
Putain, c'est ça.
Ouais.
Et qui arrive, qui se démène pour s'en sortir. Et je trouve que c'était important de les mettre en lumière. Et donc, Illustro est né. Illustro qui veut dire en latin, mettre en lumière.
Mm-hmm. Ouais.
C'est dans la presse.
Des petites nouvelles, Pascal. Hein. De nombreuses joueuses de football ne sont pas payées par leur club, selon une étude de la FIFPro, syndicat mondial des footballeurs. Des centaines de joueuses de haut niveau décident de mettre un terme à leur carrière plutôt que prévu afin de poursuivre une carrière plus viable. 66% des joueuses évoluant dans une équipe nationale se disent non satisfaites du niveau des primes et 35% ne sont carrément pas payées lorsqu'elles représentent leur pays. À titre de comparaison, l'ensemble des primes versées lors de l'Euro 2016 masculin atteignait 301 millions d'euros, tandis que pour l'Euro 2007 féminin, ce montant devrait atteindre 8 millions d'euros, selon les chiffres de l'UEFA. Bon, l'équipe masculine, il y a 24 équipes, du côté des dames, il y en a 16, mais quand même, ça fait une grosse différence. Oui. À ce propos, début 2017, la Fédération américaine de football et les joueuses de l'équipe nationale sont parvenues à un accord mettant un terme aux menaces de grève de joueuses clés qui exigeaient les mêmes conditions financières que leurs homologues masculins.
Bien sûr. Oui.
Une autre nouvelle, 14 femmes cinquantenaires qui faisaient régner la terreur à Chongqing, dans la province du Henan, en Chine, ont écopé jusqu'à 11 ans de prison ferme pour association de malfaiteurs, a rapporté la presse locale. Alors, en tout, une trentaine de femmes d'un gang de la ville recrutées par un promoteur immobilier et des entreprises créancières recouraient à la manière forte pour récupérer des dettes ou expulser des habitants. Alors, la méthode, dit l'AFP, c'était insulter leurs victimes en hurlant dans un mégaphone ou leur cracher dessus. Les femmes qui résistaient se faisaient arracher leurs vêtements. Alors, une des meneuses aveugles, faut le faire, a raconté au quotidien Xinjin Gbao que participer à ces forfaits était une façon amusante de tuer le temps. Cette besogne leur apportait chacune quelques 30 dollars par jour, plus les repas. Ouais, une petite réaction sur l'équipe de football, tiens, non ?
Ouais. Mais écoute, je ne suis pas vraiment surprise parce que nous avons le même problème en Centrafrique, hein, dans le domaine de sport. Les hommes sont beaucoup plus avantagés, ils ont beaucoup plus la possibilité de jouer en compétition, de rencontrer des équipes internationales, d'avoir des tenues. Ouais. Donc, en fait, je pense que c'est un problème mondial et qui est toujours d'actualité. Oui, bien sûr. Mmh. Bien sûr.
Pascal Serra, vous m'avez dit à plusieurs reprises, hein, quand on discutait là, dans le service notamment, que vous préférez derrière la caméra. Alors, devant, derrière la caméra, quelle est la différence ? Pourquoi avoir choisi derrière la caméra plutôt que devant ?
Je pense que je me sens plus utile derrière. J'aime bien ces rencontres où nous avons la possibilité de donner la parole à des personnes pour qu'elles s'expriment sur leur vécu, et on apprend aussi de cela, et ça nous permet également de se positionner en se disant ah oui, il y a des personnes qui souffrent énormément. Donc nous, on a tendance un peu à se dire, oh, je suis dans ma petite bulle, oh, un petit bobo, et voilà, je suis malheureuse, etc. Mm-hmm. Et quand on est confronté à ça, je pense que ça nous permet aussi de garder les pieds sur terre et de travailler son humilité, je veux dire, mm-hmm. et de reconnaître également ses privilèges et utiliser ses privilèges justement pour ne pas écraser l'autre, mais pour justement l'aider à avoir accès à sa dignité.
Vous êtes donné les moyens de pouvoir aider votre prochain, en quelque sorte, c'est ça ?
Oui. Alors, par exemple, si je prends l'exemple dans le travail que nous faisons, il m'est très difficile de juste dire à quelqu'un que nous avons interviewé, ok, très bien, signez là en bas de la page, droit à l'image, et bien au revoir. On s'est rendu compte qu'il était important d'agir également sur le plan social racontant
leur histoire. C'est ça qui est intéressant chez Illustro Productions. Hein.
Je pense. Et nous voulons avoir cet impact beaucoup plus fort. Donc, en racontant l'histoire de ces personnes, nous avons constaté que d'autres personnes qui sont dans de meilleures situations réagissent et nous contactent afin que nous puissions les aider. Donc nous avons pu reloger grâce à ça, grâce à nos publications et à nos reportages, 4 familles de déplacés. Nous avons permis à des personnes d'obtenir également leurs papiers, ceux qui avaient perdu leurs papiers pendant des maisons pillées, incendiées. Nous les avons apportés assistance pour qu'ils puissent retrouver leurs documents, donc des passeports, des actes de naissance, ou bien les aider afin qu'ils ouvrent leur petit commerce. Et nous aimerions justement continuer dans ce sens-là.
C'est ça les micro-projets,
micro-projets.
Ouais. Ouais. Mais ça, c'est formidable. Il y en a beaucoup des entreprises de médias qui font dans le social comme vous, peut-être pas énormément.
Je ne sais pas.
Qui font des dons d'argent peut-être, mais votre concept, il est vraiment très sympa, je trouve.
Merci beaucoup, mais nous souhaitons le développer. C'est pas encore parfait. Mm-hmm. Non, on aimerait beaucoup l'améliorer. Ouais. Mm-hmm. Nous y travaillons en tout cas. Mm-hmm.
Parole de femme.
Pascal Serra, vous avez réalisé plusieurs documentaires, donc vidéos, hein, dont notamment Béafrica en 2015, qui présente des témoignages donc de centrafricains de la diaspora et de ceux qui sont restés au pays pendant et après la crise en Centrafrique. Alors dans cet extrait sélectionné ici, des femmes notamment exposent leurs sentiments après avoir tout perdu pendant la rébellion armée. Petites choses que nous arrivons à vendre au marché nous aident à nourrir un peu nos enfants. Pendant la guerre qui a eu lieu ici, nous avons perdu nos maris et certains membres de nos familles. Il n'y a plus personne pour nous venir en aide. Alors, on se débrouille avec le peu de choses qu'on vend.
Pendant les événements, nous avons tout perdu. Nos hommes, nos familles, nos maisons. Il y a beaucoup trop de morts. Nos maisons ont été pillées. On nous a tout pris. Nous avons fui sans bagages, sans vivres. Nous nous sommes réfugiés dans un camp. Nous sommes confrontés à de nombreuses difficultés dans notre pays.
Voilà, c'était un extrait du documentaire Béafrica, réalisé par Pascal Serra, qui est avec moi ici, dans le studio de La Voix de l'Amérique, pour le magazine au féminin de VO Afrique. Alors, Béafrica a été diffusée hors compétition au festival du film panafricain à Cannes en 2015, c'est ça ? Au Burundi aussi, diffusée lors du Festicab à Dakar, au festival Images et Vie, à Bangui, au festival Vision Documentaire à N'Djamena, et puis à Kinshasa. Béafrica, quelle est la signification ? C'est en sango ou...
Oui, c'est en sango. Ouais. Béafrica, c'est... le nom de la République centrafricaine dans la langue nationale.
Et oh, vraiment voilà.
Et, si on
et
doit...
nous, on ne sait même pas ça.
Mais en fait, parce que tout le monde dit la Centrafrique ou le Centrafrique ou la République centrafricaine, et je dois également avouer qu'on est nous-mêmes originaires du pays un peu perturbé sur l'appellation correcte du pays, parce que les gens ont du mal à se situer. Je sais que très souvent, quand je dis aux gens je viens de la Centrafrique, les gens pensent que c'est une région et ne pensent pas que c'est un pays. Donc je pense que c'est également un sujet sur lequel nos autorités doivent se pencher pour voir comment est-ce qu'on peut attitrer un nom à notre pays afin qu'il soit reconnu automatiquement. Donc Béafrica, si je le traduis littéralement, ça veut dire Bé, c'est le cœur, et Afrique pour l'Afrique, donc cœur de l'Afrique.
C'est joli.
C'est très joli.
C'est très beau,
oui.
Hein.
Et c'est vraiment.
Et ça fait penser à la... Moi, ça m'avait pensé à la béatitude. Le idéal que j'ai cherché. Ouais. Hein, et puis voilà, je n'avais pas trouvé. Donc merci pour la précision. Pascal, justement par rapport à ce documentaire, la question que vous vous posez, c'est: un citoyen a-t-il des devoirs envers son pays qui connaît l'instabilité politique, militaire, sociale et économique? Vous avez trouvé une réponse à cette question?
Je pense que je vais prendre mon parcours personnel.
Ouais.
C'est vrai que pendant plusieurs années, je me suis interrogée sur qu'est-ce que je suis. Est-ce que je suis Pascal en tant qu'individu ou est-ce que je suis Pascal en tant que citoyenne? Et si je le suis,
on peut être les deux quand même.
Je pense qu'on peut être les deux, mais dans un pays où on n'a pas de stabilité, je pense que c'est normal que des personnes se disent bon, je vais penser à moi en tant qu'individu,
se protéger,
me protéger.
Bien sûr, c'est,
le,
c'est la première réaction.
Tout à fait.
La survie.
C'est ça, exactement.
Ouais.
Et après, il y a certaines personnes qui pensent que c'est important d'y retourner malgré les conditions pour essayer d'apporter sa pierre. Donc dans les deux cas. Il n'y a aucun jugement à porter.
Ouais.
Je pense surtout que le plus important, c'est de le ressentir comme un appel. En aucun cas, je dirais aux gens, rentrez chez vous, vous devez rentrer construire, parce que je pense que c'est une démarche personnelle et c'est quelque chose que doit leur ressortir de façon personnelle.
Mm-hmm. Voilà. Et du reste, si l'on n'est pas de ces gens qui vont reconstruire leur propre pays, ce n'est pas un crime, du reste.
Ah
il n'y a pas d'obligation non plus. On peut avoir autre chose à faire, malheureusement, ou heureusement,
heureusement,
je ne sais pas.
Et heureusement, ouais. Ils font un peu de tout. Et même si on est à l'étranger et qu'on est d'origine d'un pays, on reste un ambassadeur de ce pays-là. Mm-hmm. Donc on est toujours lié. Mais on est libre, il n'y a aucun jugement à porter.
Mm-hmm.
Si je le pouvais.
Selon l'ONG Save the Children, 6 enfants sur 10 en Centrafrique seraient sujets au stress post-traumatique, ce qui est énorme, à commencer par les enfants utilisés dans les conflits armés. Ces enfants souvent revivent en boucle les scènes qu'ils ont vues ou entendues et celles dans lesquelles ils ont été acteurs, notamment. Le traumatisme ressurgit lorsqu'on s'y attend le moins et ces enfants ont la plus grande peine à se concentrer. Alors Pascal, vous avez réalisé avec Léo Toriton un documentaire Aiguillant. On le prononce comme ça ?
Aiguillant.
Aiguillant, dans lequel s'expriment ses enfants. Écoutons ce jeune garçon que vous avez rencontré à Berberati.
Dans un groupe armé, on vit tous ensemble avec les commandants. Pour avoir à manger, il faut se battre. D'autres personnes peuvent aussi nous apporter à manger. Nous allons nous battre, puis ils nous donnent à manger. Puis nous prenons des drogues. Les drogues sont mélangées au repas et ça nous donne de la force. Certains commandants sont morts dans les combats. Lorsqu'ils ont vu que nous perdions nos commandants, Plan International est venu.
Voilà, c'est un extrait du reportage Aiguillant réalisé en Centrafrique par Illustro Productions, dont Pascal Serrard est la fondatrice, en collaboration notamment avec Plan International, le ministère des Affaires étrangères français, le gouvernement centrafricain et l'ONG centrafricaine Kidzito. C'est ça ?
C'est ça.
Et oui, et si la jeunesse pouvait.
Alors, selon l'UNICEF, plusieurs milliers donc d'enfants ont été forcés à combattre et accomplir de sales besognes au sein des Séléka et Antibalaka. À partir de 2015, il y en a eu quelques-uns qui ont été libérés. On ne sait pas trop où on en est aujourd'hui. C'est difficile d'avoir des informations là-dessus. Alors, Pascal, ce documentaire Aiguillant, Aiguillant, ça veut dire quoi? C'est la reconstruction?
Ça, ah, dans la langue nationale, bravo.
Non, je l'ai vu.
Google Translate.
Voilà.
Oui, Aiguillant, c'est la reconstruction. Ce reportage a été fait pour justement parler de la de la mise en place d'un programme par le ministère des Affaires étrangères français, plan international également, pour justement apporter un soutien à ces enfants. Donc ils ont été récupérés et donc il y a en construction un centre où ils pourront apprendre l'agriculture, l'élevage ou d'autres métiers, afin justement de leur permettre d'avoir une deuxième vie, en fait. Mm-hmm. Donc, et bien se reconstruire, renaître.
Voilà. Mm-hmm. Donc, il y en a une soixantaine déjà qui ont participé à ce programme.
Oui.
Et l'objectif, c'est de le faire, bien sûr, dans toutes les préfectures, quoi.
Oui, et surtout que ce programme puisse perdurer également, mm-hmm. Qu'il puisse continuer à... Parce qu'une fois que les enfants sortent de ce programme, il faut bien sûr prévoir autre chose pour les, soit un emploi sûr, fixe, ou une autre formation, voilà, perpétuer en fait ce qui a été commencé.
Mmh. Entre parenthèses. Un autre documentaire dont nous pourrions parler ici est celui qui relate l'histoire des personnes déplacées sur le site de l'aéroport de Bangui de 2013 à nos jours. Il s'agit d'un documentaire long métrage intitulé Zone 3. Voici un extrait de la bande-annonce.
Je fuis lorsque les milices et les cas nous ont chassés. Quand je suis arrivée sur le site, il n'y avait rien à manger. Alors, je me suis lancée dans le commerce de l'alcool de maïs. C'est ça qui m'aide à nourrir mes enfants.
Quand les gens souffrent, il est nécessaire de les aider en les divertissant pour que leur cœur s'apaise. C'est notre mission à nous les artistes.
Voilà, c'est un extrait de la bande-annonce du documentaire Zone 3 qui relate l'histoire des personnes déplacées près de l'aéroport de Bangui par la violence armée au plus dur de la crise en Centrafrique. C'est rare, on va boucler la boucle avec Zone 3. Vos espoirs pour la jeunesse africaine?
Je vais rester positive malgré tout ce que je vois sur le terrain qui me brise le cœur et je pense que nous sommes tous affectés d'une certaine façon par ce qui se passe dans le pays. Il y a des efforts qui sont en cours. Je pense que je vais rester positive. Déjà sur le domaine, dans le domaine de nos activités au début, je dois avouer que c'était très difficile de faire parler, que les gens puissent témoigner. Mais à force de leur dire, voilà, on est là pour ça, de leur expliquer, de leur montrer également le travail que nous faisons ensemble, nous nous sommes rendus compte que ça les aidait également. C'était important pour eux de s'exprimer, de partager également ce que ces personnes traversent. Et je pense que c'est déjà un premier pas, sachant que tout ce qui est documentaire, reportage peut également être un facteur
de développement,
mm-hmm. être utilisé également pour l'éducation, pour véhiculer des messages, des messages de paix dont nous avons besoin en ce moment dans le pays. Et je pense que de beaux jours sont devant nous en matière d'éducation, de santé. C'est le rêve que nous avons pour notre pays.
Un grand merci, Pascal Natera. Un grand merci également à Georges Léonard Sagnot, à la production. Et bien sûr, un énorme merci à tous nos auditeurs, à toutes nos auditrices. À très bientôt, au revoir.
Merci beaucoup, Nathalie. Au revoir.
Arrête.